Bonsoir à tous, bienvenue dans cette foire aux questions de pure politique. Numéro 7, j'ai demandé à Maxime Hector qui m'accompagne ce soir combien on en était. Il m'a dit 7 foires aux
C'est la
questions.
septième, Serge, tout à fait.
Voilà. Et ce soir, nous avons Antoine Etcheto avec nous, qui
Bonsoir.
d'Ukraine, où il a été faire un reportage cette fois-ci pour son propre compte.
Mon plaisir de vous connaître.
Et voilà, donc il est de retour, il est en un seul morceau, donc on est très content de le retrouver. Surtout que l'actualité, eh bien, vous vous en doutez, depuis dimanche soir, c'est emballé. Je dois dire que j'ai l'impression que les 48 heures qui viennent de s'écouler m'ont semblé d'une richesse incroyable. On n'a pas arrêté de travailler, d'une part, et puis deuxièmement, les rebondissements en cascade encore aujourd'hui, je pense qu'on va revenir dessus. Font que il y a vraiment on est en train de vivre un moment historique, il faut le dire, alors qu'on s'y attendait pas, puisque cette campagne pour les européennes avait été quand même un petit peu morne, il faut reconnaître ce qui est. Et tout le monde dimanche soir se disait bon, c'est terminé, c'est bien, bientôt les vacances, éventuellement les Jeux Olympiques, et on se revoit à la rentrée. Eh ben non, là, ça s'emballe, et puis ça s'emballe dans des directions, je dirais, plutôt inconnues, puisque à la fois sur le plan institutionnel, ça pose des questions, sur le plan politique, n'en parlons pas, et puis on se demande très bien qui maîtrise un petit peu tout ça. On a l'impression surtout que le président Macron, qui était finalement, celui qui a déclenché ce chaos ne contrôle déjà plus rien. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on était place du Palais Bourbon, parce qu'il faut que je vous explique deux, trois petites choses. Nous n'avons plus accès au Palais Bourbon. C'est aussi étrange que cela paraisse, puisqu'aujourd'hui, on nous a expliqué fort gentiment, hein, les agents de l'Assemblée nationale sont d'une urbanité exquise. Nous ont expliqué que les députés étant redevenus de simples citoyens, comme les autres, ils n'avaient plus la possibilité de s'exprimer devant la presse dans une enceinte parlementaire qui, par définition, est réservée aux parlementaires. Donc, dans l'enceinte parlementaire réservée aux parlementaires, où il n'y a plus de parlementaires, il était interdit de poser des questions, y compris même de s'entretenir de manière officieuse avec les quelques députés qui étaient en train de faire leur carton. Donc tout le monde s'est retrouvé dehors sur la place du Palais Bourbon. Et ça tombait bien parce que c'était en même temps devant le nouveau siège des Républicains, où il s'est passé un certain nombre d'événements sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Voilà, donc on a vu à peu près tout le monde aujourd'hui, des gens de Renaissance, des gens du PS, de Génération, des écolos. Et puis, bien sûr, les différents courants aujourd'hui de LR. Je vous propose, pour résumer un petit peu le topo, ce qui dit.
Serge, juste
Ouais.
une petite info, on va rappeler juste le format. Donc c'est une foire aux questions. On est en direct pendant à peu près 1 heure et demie. Donc on va essayer de traiter un maximum de thèmes. Donc l'idée c'est que vous posez vos questions directement sur le chat YouTube en direct. On va essayer d'y répondre un maximum. Je pense que vraiment il y a beaucoup de questions qu'on va essayer de traiter ce soir et des questions très intéressantes. N'hésitez pas. Et on parlera aussi également du tour de la question. C'est le dernier format de pure politique et puis de pure politique en général. Le format de tour de la question incarné du coup par Antoine qui est là ce soir. Et puis donc posez vos questions en direct sur le chat. Voilà, je te laisse continuer.
Voilà. Alors, on va tout de suite
Tu peux
prendre
commencer?
une question. Alors, voyons, qu'est-ce qui est tombé? Parce qu'en même temps, j'ai un autre écran sur lequel je vois un petit peu les
Alors,
questions.
moi, j'avais pris une question tout à l'heure, Serge, si je peux me permettre. Une question de Exotico sur le chat. En cas de victoire du RN aux législatives, peut-il imposer Jordan Bardella comme Premier ministre ou Emmanuel Macron peut-il décider de nommer un autre cadre du RN?
Alors, Emmanuel Macron désigne le Premier ministre, et il n'y a pas d'obligation forcément de désigner celui qui a été désigné par le Rassemblement national. Mais si Emmanuel Macron désigne un autre responsable du Rassemblement national et que celui-ci dit « Monsieur le Président, je ne veux pas venir », c'est retour à la case départ. Et le parti en question peut dire, tous les responsables peuvent dire « Ben non, nous, on n'y va pas », donc il reste plus que Bardella. Donc il y a rien de. En Angleterre, vous le savez, c'est le chef du parti de l'opposition qui statutairement devient premier ministre. Enfin, de l'opposition, pardon, de la majorité. Mais je veux dire que quand il y a une alternance, c'est en général l'opposition qui devient majoritaire. Et donc c'est le chef du parti majoritaire qui devient premier ministre.
Et ça, dans le cadre d'une majorité tout à fait relative, c'est possible.
Ah ben oui, oui. Okay. Et maintenant, si Emmanuel Macron, soyons fous, voulait nommer, je ne sais pas, Dupont-Aignan Premier ministre, il le pourrait, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même l'épreuve de vérité derrière, qui est cet exercice qu'on appelle la déclaration de politique générale, où le Premier ministre va présenter son programme devant les députés. Et il était, de tradition, je dis il était, parce que les macronistes ont fait quelques entorses à cette tradition parlementaire, que cette déclaration de politique générale soit suivie d'un vote des parlementaires qui confirmait qu'ils étaient d'accord pour que le Premier ministre mène la politique en question. Et puis, avec Gabriel Attal, mais avec les premiers ministres précédents, Elisabeth Borne avait fait, dans mon souvenir, la même facétie, qui consiste à dire, ben voilà, mesdames et messieurs, ce que je vais faire, puis je vous demande pas votre avis, ni même votre sentiment. En sachant que le vote des parlementaires, de toute manière, sur la déclaration de politique générale, est un vote qui reste symbolique, sauf à ce que il y ait une motion de censure qui soit déposée à la suite de cette déclaration de politique générale. Voilà.
Ok. Une question de Diego de la Vega. Le Conseil constitutionnel pourrait décider d'annuler ou de reporter les prochaines élections législatives. Est-ce qu'il y a des spécialistes du droit constitutionnel
Oui, j'ai vu passer ça.
Des spécialistes du droit constitutionnel ont déposé un recours.
J'ai vu passer ça, mais il y a une jurisprudence, c'est que le Conseil constitutionnel n'a absolument rien à dire sur les conditions d'organisation de l'élection du président de la République.
Donc là, selon toi, le 30 juin, c'est forcément le premier tour, quoi.
Oui, de l'organisation de l'élection du président de la République ou l'organisation des élections. Il peut vérifier a posteriori. Mmh. Il n'a pas vocation à dire en amont, on ne peut pas le faire. Voilà. C'est, a posteriori, il peut dire, un certain nombre de règles ont été transgressées. Mais il ne peut pas. Je rectifie d'ailleurs aussi, il y a eu tout un débat rapide qui a été évacué sur le fait que le code électoral obligeait les candidats finalement à présenter leur candidature avant même que la dissolution de l'Assemblée nationale n'ait été prononcée. Bon, ça c'est un article du code électoral qui n'est pas raccord avec la réalité, et ce qui s'impose au code électoral, c'est le décret de dissolution de l'Assemblée nationale qui l'emporte sur l'article du code électoral.
D'accord. Une question de Stéphane. Les législatives sont habituellement calées sur la présidentielle. Va-t-on voter pour une demi-législature ou une législature normale de 5 ans? Est-ce que là, les députés vont faire...
C'est une excellente question. Je dois dire que je cherche.
Bien joué, Stéphane. Ouais, tu peux pas répondre.
Et j'avoue que je ne sais pas, parce que j'ai eu des réponses totalement contradictoires.
Eh ben Stéphane, bravo d'avoir mis en échec.
Et c'est une excellente question parce que elle détermine beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver dans une situation que seuls les plus anciens comme moi connaissent. C'est-à-dire à l'époque où les élections législatives étaient découplées de l'élection présidentielle, tout simplement parce que le mandat du président était de 7 ans et le mandat législatif, c'est un quinquennat, donc il est de 5 ans. Et donc, il y a des fois, les élections législatives se déroulaient à mi-mandat, ce qui avait une fonction d'ailleurs de régulation de la vie politique. C'est-à-dire qu'il y avait, évidemment, à mi-mandat du président, il y avait une élection législative qui permettait de sanctionner le président ou d'approuver son action d'ailleurs. Mais ça permettait de confirmer une politique générale. Depuis Jospin et le fait qu'on est mis à la remorque de la présidentielle, les élections législatives, bien sûr, les élections législatives sont peu ou prou le décalque de l'élection présidentielle. Et donc, du coup, on a des chambres qui sont beaucoup plus à l'unisson de la majorité qui s'est exprimée sur le président de la République qui a été élu que à l'unisson de du sentiment de la population 2 ans ou 3 ans après que le président ait commencé son mandat. Donc moi, je pense, d'après la lecture, hein, alors je vais vous dire, mais ce que je montrais à mes petits amis tout à l'heure, ce que je lis passionnément en ce moment, c'est l'exemplaire de la Constitution que vous trouvez à la bibliothèque de l'Assemblée, mais qui est commenté. Donc commenté, ça veut dire avec plein d'articles de jurisprudence, etc. Et donc je cherche la réponse à cette question qui apparemment est pas super claire. Et puis je lis aussi le manuel, enfin le règlement de l'Assemblée nationale commenté. Parce que ce sont des textes assez arides et c'est pas mal d'avoir des gens qui disent « Ah oui, mais ça s'interprète comme ça, comme ci, comme ça, c'est très différent, voilà. »
Tu as vraiment des lectures super fun, hein.
À côté, c'est juste pour me détendre.
Hein. Alors, une autre question de Takamura. Comment expliquer le côté « coup de sang » entre guillemets de cette dissolution en réaction à une élection dont le résultat était connu depuis 2 semaines ? C'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on voyait que le Renaissance était très bas dans les sondages. Est-ce que Emmanuel Macron anticipait une future motion de censure ?
Moi, je ne crois pas du tout au coup de sang. C'est une décision qui a mûri petit à petit. Pour une raison simple, c'est que les 3 ans qui s'annonçait, on a vu la difficulté pour le président à faire passer un certain nombre de projets de loi, donc il a décidé d'essayer de gouverner par décret, il s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué. Alors quand je dis gouverner par décret, c'est par exemple l'assurance chômage. L'assurance chômage, normalement, il faudrait un projet de loi, une discussion législative, et puis on modifie à la fois la durée d'indemnisation et tout ce qui organise le montant de l'allocation, on l'organise par décret. Bon, on peut le faire pour un certain nombre de secteurs, mais il y a un moment où l'exercice devient compliqué. Et puis deuxièmement, il y a la question du budget, et LR n'avait pas fait mystère de vouloir déposer sa propre motion de censure à l'automne. Et l'automne s'est annoncé assez catastrophique. Et d'accord, le président s'est dit, bon, on va prendre tout le monde de vitesse. Et il faut observer quand même une chose, c'est que ces élections se font sur 3 semaines. La Constitution permettait d'aller jusqu'à 40 jours pour organiser. Du moment de la dissolution jusqu'à l'élection, on pouvait avoir un délai de 40 jours. Là, on va avoir un délai de 21 jours.
Ça, c'est le problème aussi des JO. Alors, j'avais vu une question, parce qu'on va avoir un ministre de l'Intérieur différent pour les JO. Est-ce que ça pose un problème sécuritaire pour toi ?
Je ne crois pas, parce que de toute manière, tout est déjà calé. Les directeurs des différentes administrations du ministère de l'Intérieur savent ce qu'ils ont à faire. Et
oui, mais qui gère, hein. C'est pas locataire de Beauvau qui va changer grand-chose. Hein.
Voilà, surtout en 2-3 semaines. Ouais. Ok, alors on a beaucoup de questions, merci à vous hein, ce soir, n'hésitez pas sur le chat, poser vos questions.
Alors, il y a le troisième mandat, alors on va faire de cette question qui revient éternellement. Voilà.
Le gros truc fiction là, est-ce que tout ça est un plan machiavélique pour pouvoir briguer un troisième mandat ?
Eh bien, chers amis, c'est pas possible le troisième mandat, parce que la Constitution limite à 2 mandats consécutifs la possibilité pour le président d'être président. Donc ça veut dire que Macron est à son 2e mandat, quoi qu'il arrive, il nous quitte soit en 2027 ou peut-être même avant, sait-on jamais s'il venait à démissionner, mais je vais revenir sur l'histoire de la démission. Et il faudrait que dans l'intervalle, il y ait un autre président qui soit élu, qui exerce son mandat, pour que, à l'issue du mandat de l'autre président, il puisse à ce moment-là se représenter, parce que ce ne sera pas un mandat consécutif. Faut bien comprendre, c'est pas les histoires de date, si ça en va plus tôt, si c'est abrégé, pas abrégé, tout ça, ça n'existe pas. La Constitution est très simple, 2 mandats consécutifs. Et le 2e mandat peut être de 2 ans, 1 an, 3 ans, on n'en sait rien. Une fois que ces mandats consécutifs ont été faits, au revoir monsieur, et vous revenez. Mais entre vous et entre maintenant et votre retour, il faut qu'il y ait eu un autre président de la République. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais ça se discute, des constitutionnalistes éminents qui ont dit ça se discute parce que s'il fait 5 ans Et puis ensuite, mettons qu'il n'en fait que 3, alors il a un rap de 2, mais alors ces 2, est-ce qu'il peut les faire après? Enfin voilà, bon, non, il n'y a pas besoin d'usine à gaz, c'est 2 mandats consécutifs, point final.
Il y a un truc qu'il faut noter aussi, c'est que Emmanuel Macron, il n'est pas très vieux. Donc en fait, il n'a pas besoin de faire des plans sur la comète pour démissionner. Là. Il suffit d'attendre qu'il y ait qu'en 2032.
Il y a une excellente émission qui disait ça. En 2032, il aura 54 ans.
C'est bon, il peut être patient, attendre un peu, et il se représentera que son successeur soit d'extrême droite, de sa majorité, n'importe qui, ou de gauche. Une fois qu'il y a une alternance, il pourra se représenter en 2032. Il ne sera pas cané, quoi.
Est-ce que pour toi, c'est possible, ça, Serge ?
Qui se représente en 2032, oui, pourquoi pas. Tu sais, on s'aperçoit de quoi, c'est que une fois qu'ils sont partis, ils ont déjà envie de revenir. Hein. On regarde François Hollande qui n'arrête pas de faire des offres de service.
Serge.
France, il est là, je suis en réserve de la République. Sarkozy aimerait bien revenir, mais le problème, c'est que les bracelets électroniques risquent c'est de couiner dans les portiques. Donc,
Serge, on a lancé le pavé dans la mare. François Hollande, à ton avis, qu'est-ce que va faire François Hollande là, dans les prochaines semaines?
Signer des livres dans la zone culturelle.
Je pense qu'il va nous faire François Hollande, c'est-à-dire il va nous expliquer que l'extrême droite, c'est pas bien, que la gauche, c'est bien, mais que ce serait vachement mieux avec lui, qu'il faut privilégier la culture de gouvernement. Enfin, on connaît déjà le discours. Il va nous le dire gentiment, parce que c'est un personnage qui n'est pas forcément agressif. Mais d'abord, tu sais, maintenant, il fait un peu figure du tonton un peu alcoolo qu'on exile au bout de la table dans les repas de famille et on n'a pas envie qu'il l'ouvre.
Il fait des docus sur l'international aussi, avec son recul de président, il fait beaucoup ça. D'ailleurs, c'est intéressant. Hein.
Mais je suis pour qu'il prenne énormément de recul.
D'ailleurs, est-ce qu'on parlait de la gauche? Est-ce que c'est une question de Malakoff? Est-ce que tout ça, c'est pas une manœuvre pour éradiquer la gauche?
Ah ben alors, au départ, l'objectif, alors très bonne question, l'objectif, il est, comme je l'ai expliqué lundi, de tuer. Alors, l'idée, c'était de tuer la gauche, c'était de faire le pari. Le pari qui était fait, c'était de dire, bah, de toute manière, ils en sont à un point de détestation, ils arriveront jamais, ne serait-ce qu'à se réunir dans une salle et à définir un accord minimal. Bah, pas de bol, l'incroyable s'est produit. Ils ont réussi à s'asseoir dans la même pièce, à ne pas s'égorger, à dire on va laisser nos conneries de côté et à faire un accord qui reste très minimal. Hein. Faut pas non plus se raconter n'importe quoi. Mais en gros, l'idée, c'est de faire que on se répartisse les circonscriptions et qu'il y ait dans chaque circonscription un seul candidat de gauche et pas un mec qui vienne cannibaliser une partie des voix.
Est-ce que ça, pour toi, ça déjoue pas les pronostics de Macron?
Ah ben oui, ça déjoue ça.
C'est déjà raté, hein,
sans parler. C'est le premier échec de Macron. C'est que cet accord qui tient un peu du miracle. Hein, très sincèrement, moi, je suis assez épaté là parce que. Quand même, quand on est à te traiter les uns les autres d'antisémites, de machin, de gauche molle, la dernière note de Jean-Luc Mélenchon parlait de confrontation avec le Parti socialiste. Enfin, bon, on était dans une période très identifiée de la gauche française qui va de 1934, plus exactement 33 jusqu'à 36. Le parti communiste de l'époque, qui est totalement inféodé à Moscou, passe d'une stratégie classe contre classe, c'est-à-dire un truc totalement stalinien, radical, etc., où les socialistes étaient traités de fascistes. Hein, mais vraiment, vous lisez Dumas de l'époque, c'est les fascistes. Et tout à coup, ils arrivent à non seulement conclure un accord en vue de 36, mais à faire que le Front populaire existe. Bon, donc le miracle au sein de la gauche existe, même si je suis très très laïque de ce côté-là. Mais donc cet accord existe, il va être opérationnel. Je dirais qu'il est d'autant plus facile que la campagne est courte. Donc il fallait se décider rapidement. Et paradoxalement, le délai rétréci choisi par Macron pour tenir les élections a favorisé la réalisation de cet accord. Je pense que s'ils avaient eu le temps vraiment de réfléchir, d'organiser une consultation interne et tout, je pense qu'on y serait encore. Là, en 48 heures, la question a été réglée.
Et puis en plus, en début d'après-midi, ou ce midi, Carole Delga a annoncé qu'elle soutenait le Front Populaire.
Ah oui, là, il se passe des... Enfin, il faut aller à Lourdes, hein. Il se passe des...
Mais Carole Delga, elle veut être présidente de la République un jour. Donc, elle ne va pas se couper complètement d'un mouvement d'unité au sein de la gauche.
Mais rappelons qu'en 2022, elle a présenté des candidats dissidents à la NUPES.
Oui, elle a présenté des candidats dissidents. Bon, et en même temps, elle n'a pas été foutue dehors du Parti Socialiste et tout le monde a toléré une exception Carole Delga. Et là, elle a bien compris que par rapport à la menace que représentait l'extrême droite, elle qui avait des ambitions présidentielles, il était suicidaire d'aller à contre-courant de l'opinion de gauche en général. C'est indéfendable et c'est incompréhensible pour les gens.
Donc, ça va se payer terriblement. Hein. Ceux qui vont jouer la désunion à ce moment-là, pendant des années, on va leur rappeler.
Hein. Tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Donc le flingage de la gauche, pour le moment, ça n'a pas réussi.
Mais la droite.
Le flingage de la droite, c'était aujourd'hui, ça a partiellement réussi, mais peut-être pas dans les.
Pourquoi ? Parce que tout le monde dit que la droite est au bord de l'implosion, là.
Elle n'est pas au bord de l'implosion, elle est en train d'imploser. On va appeler les choses par leur nom. Mais elle implose pas selon les lignes de fracture auxquelles on pouvait s'attendre. L'idée, c'était, Macron, c'était de récupérer un certain nombre de gens de droite qui auraient été en déshérence et qui auraient dit... tout ce qui peut représenter une fraction jupéiste au sein des Républicains, et ces gens qui auraient été tout à coup sans parti, ou en tout cas qui ne se seraient pas reconnus dans les décisions de la direction de leur parti, auraient basculé. En gros, des profils comme Édouard Philippe, tu secoues les LR, il y en a plein comme ça. Bon. Le problème, c'est qu'il s'est produit un truc inouï, c'est que Ciotti est sorti du bois en disant, est allé donc au journal de 13h de TF1, et voilà, écoutez, on va passer en accord avec le RN,
c'est formidable. Mais alors, selon Bruno Retailleau, c'est une pure trahison, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça a été envisagé en réunion.
Non, mais ça n'a pas été envisagé en réunion parce qu'il n'y a pas eu de réunion depuis dimanche soir. Donc, cette décision, elle a été prise par Ciotti tout seul, qui a décidé qu'il allait conclure un accord. Et lui, son argument en interne, c'est de dire, moi, je sauve le groupe, je sauve 60 mandats de députés, je les sauve en passant un accord avec le Rassemblement national. Et les autres ont tout de suite vu le danger, c'est-à-dire que tu fais ça, tu tues les Républicains. Voilà, tu as peut-être à l'arrivée les députés en question qui sont sauvés, mais tu es sûr que l'étiquette les Républicains est morte. Voilà. Et donc tout le monde est monté au créneau, Larcher, Wauquiez, Marlène.
C'est vrai que là, il a fait son truc et il a été immédiatement désavoué par tous les sénateurs. Il y a Marlex aujourd'hui. Je sais pas qu'à quoi il a pensé en fait.
C'est un coup de force. Il pense sincèrement que on en parlait tout à l'heure avec Maxime avant cette émission. La réflexion de Ciotti, c'est pas que c'est un mec absolument facho. Non, c'est une autre réflexion. C'est de dire notre espace politique. Le Rassemblement national nous l'a piqué. Les gens qui sont au Rassemblement national, ils devraient être chez nous. C'est notre espace. Voilà. Lui, Ciotti, son modèle, c'est le RPR, voire le RPF, c'est-à-dire les ancêtres du gaullisme qui étaient très à droite. Hein. Aujourd'hui, on est habitué à une droite soft. La droite de Charles Pasqua, c'était pas une droite soft. Hein. Dans les années 70, la droite, je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent ce soir, qu'il y avait, c'était l'époque du service d'action civique, c'est-à-dire que les partis de droite, ce parti de droite, héritier de la tradition gaulliste, avait à l'époque une espèce de milice paramilitaire qui s'appelait le service d'action civique, qui a d'ailleurs été dissous à la suite d'une tuerie qui s'appelle la tuerie d'Auriol, mais ça vous reporterez à Wikipédia pour les plus courageux. Mais c'était un truc qui était une espèce de milice semi-clandestine, une parapolitique. Bon, et tout ça a bien changé, mais pour Ciotti, l'espace naturel de la droite, c'est un espace dans lequel l'ERN s'est installé. Et finalement, l'ERN est considéré comme le coucou de l'espace politique naturel. Voilà. Mais pour d'autres députés au sein de LR, l'espace naturel, c'est un espace qui lorgne plutôt vers le centre. C'est pour ça qu'il y a Horizon et c'est pour ça qu'il y a LR. C'est-à-dire que c'est une question de partenaires et de positionnement géographique à droite, voilà. Et donc Ciotti est parti en disant, de toute manière, j'en ai rien à foutre, je suis le président. Il nous l'a redit, hein, nous l'a expliqué tout à l'heure. Il nous a dit, moi, ce qui m'importe, c'est les militants, et je dis à mes amis, c'est les militants qui m'ont élu, donc terminé. Voilà. Il a dit, je ne démissionnerai pas, je ne partirai pas. Je vous verrai ça jeudi en détail.
Parce qu'on était devant le siège des Républicains tout à l'heure.
Voilà, voilà. Donc l'histoire elle est là, c'est-à-dire qu'on a Ciotti qui dit ben les LR c'est moi, donc je décide qu'on passe un accord avec le RN et on a le reste, disons l'immense majorité des Républicains qui dit pas question. Et puis en plus il y a des gens qui ont aussi un avenir politique à jouer. Aurélien Pradier, il n'est pas question un instant qui laisse
dans le Lot. Mais même je pensais à l'Auvergne tout à l'heure, enfin ça va être désastreux quoi.
Voilà. Mais Wauquiez a décidé du coup de se présenter aux législatives.
Oui, j'ai vu.
Voilà, donc le problème c'est que ça produit une réaction inverse.
Alors, parle de droite indépendante lui. Il parle de droite indépendante, Wauquiez.
Certes, ça met un peu de confusion à droite, mais pas comme l'espérait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pensait qu'il allait avoir une fracture nette qui allait vraiment permettre de trouver, disons, la vingtaine, la trentaine de députés qui font défaut à Renaissance.
Ok, on va enchaîner sur les questions. Vous êtes plus de 2200 là, nous regarder en direct. Donc, merci à toutes et à tous. Posez vos questions en direct sur le chat. On est en direct encore une petite heure. Question de Jimanob. Emmanuel Macron a annoncé s'adresser 3 fois par semaine aux Français jusqu'aux législatives. Est-ce que c'est légal au niveau du temps de parole?
C'est nos amis de l'ARCOM qui vont décompter ça.
C'est bien décompté, c'est ça que tu...
Forcément, c'est décompté. Si le président vient nous parler de l'Ukraine en disant nous allons livrer à l'Ukraine nos Mirage 2005, hein, je précise, ou nos merveilleux canons César, ou nos Griffons, nos Jaguars, etc. Bon, tout ça, c'est le job, j'allais dire, naturel du président. Maintenant, s'il vient et il vante les mérites de Renaissance, etc., son bilan, c'est merveilleux, et voter pour mes candidats, bien évidemment, c'est du temps de parole qui est réintégré dans le temps de parole de la campagne. Mais il faut souligner quand même l'incongruité de cet engagement du président, parce que il y a un moment donné, les Français sont pas stupides, pardon, mais s'ils voient quasiment toutes les semaines le président qui mouille sa chemise en faveur de son camp, si son camp se prend une veste, la conclusion naturelle, c'est de dire que c'est une défaite du président. C'est-à-dire qu'en présidentialisant les législatives, il fragilise sa position. Il pense que son autorité, sa légitimité, il peut la mettre au service des législatives, mais il risque de se produire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il va être fragilisé par son implication dans les législatives.
Puis il l'a fait pour les européennes, ça a été désastreux de toute façon.
Ah oui, c'est-à-dire...
Il y a moins de 15%.
Il se prend quand même une tôle mémorable.
Moins de 15% européennes aillées au final.
Surtout, le truc, c'est que le parti du président fait exactement moitié moins que le parti du premier opposant, c'est-à-dire le Rassemblement National. Quand tu en es là, un réflexe élémentaire de logique arithmétique, à défaut d'être politique, c'est de dire, bon, on va peut-être limiter la casse, on va pas trop s'impliquer. Or là, il s'implique tellement que ça devient une élection pour ou contre Macron. C'est-à-dire que ces législatives deviennent un référendum sur Macron. Ce qui est tout à fait à rebours de la logique des institutions de la Ve République.
On a beaucoup le sujet de Raphaël Glucksmann, hein, bien sûr, sur
le chat. Dans le chat,
qui revient, et c'est normal. Donc, pour revenir au Front Populaire, où en est Raphaël Glucksmann actuellement?
Et où en est Laurent Berger? Parce que...
Oui, ben ça, c'est après. Ça, c'est la résultante.
Alors, moi, je veux dire, hein, franchement, j'étais assez admiratif. Glucksmann a été exfiltré de la politique française en 3 minutes. C'est la plus belle exfiltration, parce que dans l'idée du Parti Socialiste, hein, jouons carte sur table, le Parti Socialiste se servait de Raphaël Glucksmann comme une tête de gondole, on va dire. L'idée, c'était, il fait un tour de piste aux européennes, il réalise un bon score, il nous remet en selle, et surtout... Il quitte la scène nationale et il s'investit tant qu'il veut. C'est normal, c'est légitime au Parlement européen, mais surtout, il se mêle pas de nos affaires. Et les inquiétudes ont commencé à surgir une quinzaine de jours avant le scrutin du 9 juin, où il y a plusieurs reprises, il a déclaré vouloir s'investir dans la reconstruction de la gauche française, en expliquant que cette fois-ci, il y avait un débat qui allait être tranché le 9 juin, et qu'il y avait des lignes claires, un message clair, etc. Mais bon, très bien tout ça, et tout le monde a commencé à dire, bon écoute, Raphaël, t'es sympa, mais c'est pas ce qui est prévu. Alors, j'énumère juste quelques obstacles légers qui se présentaient sur sa route, c'est que Carole Delga brigue aussi la présidentielle, donc elle voyait, elle n'avait pas vraiment envie que Raphaël Glucksmann vienne reconstruire la gauche. Bon, Olivier Faure, qui quand même aimerait bien être le patron de son parti, commençait à le trouver un petit peu envahissant. Et la dissolution a permis de dissoudre Raphaël Glucksmann. En 5 minutes, ce garçon pour être très franc aujourd'hui, qu'il soit dans le front, que Place Publique fasse partie du Front Populaire ou n'en fasse pas partie, j'ai envie de dire, c'était un événement de... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui supportent M. Asselineau, voilà, mais ça a autant de poids que ce que pourrait déclarer M. Asselineau sur le Front Populaire. Voilà, je sais que je vais me fâcher avec plein de gens en 5 secondes, mais c'est que le poids politique en France de Place Publique, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto, quoi.
Mais ils n'ont aucun avantage local, en tous les cas.
1%, donc.
C'est un peu vertigineux, quand même. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Raphaël Glucksmann quand il vient déclarer à la télévision qu'il va reconstruire la gauche et qu'il propose Laurent Berger comme Premier ministre? Moi, j'ai regardé ça avec. Je sais pas, ouais, c'est quelque chose d'assez. Fascinant. C'était fascinant à voir.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est le mot fascinant. Moi aussi, je suis resté, je me suis dit, mais enfin, le gars, il sort là, bon, il est d'accord, il sort de l'élection, il est vainqueur, mais enfin, il vient, il a un mandat européen, et il nous dit, ah, pardon, attendez, hop, moi, je vous expliquais comment on refait tout, et puis, le Premier ministre, c'est celui-là. Et il s'étonne de se faire jeter. Alors que, on sait très bien qu'il y a des tas de gens qui sont en train de considérer qu'il y a des premiers ministres naturels. Du côté de LFI, on pense que le premier ministre naturel, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bon, on le dit pas trop fort parce que ça pourrait braquer tout le monde. Et je pense que la question du premier ministre, tout le monde va l'évacuer rapidement parce que on n'a pas envie de casser le Front Populaire. Donc l'idée maintenant, c'est un accord électoral pour avoir un maximum de députés de gauche élus dans une majorité donc de circonscription. Et le Premier ministre, on verra si cette coalition est en mesure d'imposer un Premier ministre. À mon avis, ça va être dur, mais bon, sait-on jamais. Mais voilà, bon, donc laissons tomber. Mais l'autre qui arrive, ça y est, j'ai mon Premier ministre, et enfin, le message, c'était surtout pas Mélenchon. Si on commence le débat comme ça, il est évident que ça ne peut pas aboutir.
Oui, bien sûr. Une question de l'IS sur le chat. Est-ce que le bloc présidentiel peut-il se retrouver comprimé à l'Assemblée entre un bloc d'extrême droite et le Front populaire?
C'est une bonne question.
Moi, j'y crois, je pense. Non, mais là, c'est ce qui est en train de se passer, Serge.
Si on fait un peu de prospective, en gros, on a quoi comme scénario? Pour que le RN soit la majorité absolue, ils sont 89 actuellement, il faudrait qu'ils gagnent 200 circonscriptions. C'est énorme. Personne ne croit que c'est vraiment possible.
Donc, et les villes, c'est pas possible.
L'un des scénarios les plus probables, c'est qu'il va y avoir un renforcement très important du bloc d'extrême droite. Ils vont peut-être terminer à 150, 180, 200 députés.
Je pense que ce sera...
Moins, 62 points.
Non, je pense que ce sera beaucoup plus.
Ah ouais?
Pour une raison simple, c'est que dans 94% c'est un des enseignements majeurs du scrutin des européennes, dans 94% des communes françaises, le Rassemblement national est en tête à l'issue des européennes. C'est le scrutin des européennes. Je dis, c'est comparaison n'est pas raison. C'est pas, on peut pas faire un décalque précis. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de circonscription et que les enjeux au sein d'une circonscription ne sont pas exactement les mêmes que les enjeux communaux. Mais lorsqu'on regarde les cartes électorales, on voit que la progression du RN est uniforme. Ça, c'est un élément majeur. Et donc, moi, je pense que le débat, mais je peux me planter, hein, j'ai pas la science infuse et moi, ma piste de réflexion aujourd'hui, le débat, c'est entre une majorité relative et une majorité absolue à l'Assemblée pour le Rassemblement national. Voilà. Je pense que la vraie alternative, elle est celle-ci. Et je pense que l'hypothèse d'une majorité relative est l'hypothèse qui les emmerde le plus. Ce matin, je suis tombé sur Jean-Philippe Tanguy devant l'Assemblée nationale, qui venait chercher ses petites affaires et qui déménageait son bureau, comme tout le monde d'ailleurs.
Est-ce que tu peux juste rappeler qui est Jean-Philippe Tanguy?
Jean-Philippe Tanguy, c'est un des responsables du Rassemblement national, c'est un des porte-paroles du Rassemblement national à l'Assemblée. C'est le monsieur qui vient de l'UMP, qui a un léger zozotement.
Et qui a failli avoir la commission des finances. Hein.
Oui, voilà, qui revendiquait la commission des finances. Voilà. Bon, donc on a eu une discussion officielle, puis ensuite on a papoté un peu de manière off. Le message général, c'est que moi, la question que je lui ai posée, je lui ai dit, vous allez vous retrouver finalement dans la même situation que Renaissance, parce que si vous avez la majorité relative, vous êtes obligé de trouver des alliés à chaque fois que vous voudrez faire passer des projets de loi. Et ces alliés, bien sûr, vont faire monter les enchères. Donc, ça peut être ce qui reste des LR, ça peut être quelques éléments épars ici et là, mais ça va être dur, s'ils ont une majorité relative, de faire quelque chose, parce que il faut bien comprendre un truc, et c'est qu'on est en train de toucher les limites des institutions de la Ve République. La Ve République, elle est faite pour fonctionner avec une majorité et une opposition. Là, on se retrouve avec une majorité, pas forcément absolue, et deux blocs d'opposition. C'est-à-dire que ce découpage en trois, finalement, les institutions de la Ve République ne sont pas capables d'organiser une régulation politique. Ce qui prouve l'urgence d'ailleurs de changer de constitution, ne serait-ce que pour ça. Ce système ne fonctionne pas avec trois blocs. Parce que ça bloque, pour le coup, sans jeu de mots.
Donc Serge, tu es pour la Sixième République ?
Je suis pour une autre république. Bon, alors, chronologiquement, elle arrivera après la cinquième, donc elle a de fortes chances de s'appeler la sixième république. Voilà. Mais c'est vrai que non, elles sont bloquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner avec une majorité et deux blocs d'opposants. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que depuis 2 ans, d'ailleurs, c'est bloqué. C'est pas parce que les insoumis, patins, gna gna gna, ils crient très fort, ils font rien. Ok, ça fout un peu le bordel, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui bloque. Ce qui bloque, c'est le fait que cette majorité, pour faire passer des projets de loi, c'est la croix et la bannière. On l'a vu sur l'histoire de l'immigration où ça a pris un temps infini, ils ont été obligés de négocier, de capituler surtout pour avoir les voix du Rassemblement national et celles de la droite. Et ils sont à chaque fois en train de louvoyer entre un bloc plutôt centriste et puis un bloc de droite, voire d'extrême droite. Donc ça ne peut pas fonctionner et c'est ce qui a poussé Emmanuel Macron justement à dissoudre l'Assemblée parce que ça ne marche pas.
Okay. La majorité relative RN, on a bien compris, ça va sans doute aboutir à un blocage institutionnel.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire, elle devient dingue. Sinon que la majorité relative, il se retrouve dans la situation de renaissance et ça devient ingérable. Parce qu'ils vont arriver en disant, bon, alors en plus, leur connaissance du fonctionnement et de l'Assemblée et puis de l'administration de l'appareil d'État est quand même assez limitée. On va avoir Bardella qui va dire, ben moi je veux, ah ben non, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, on peut pas parce que machin, ça c'est anticonstitutionnel, ça vous pouvez pas, ah ben non, il y a des lois, et ça va être le choc du réel législatif, ça va être très dur pour eux. En revanche, s'ils ont une majorité absolue, là, les amis, c'est open bar, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
Ouais. Et c'est pendant au moins un an, préparez-vous. C'est ça le.
Non, mais.
La dinguerie du pari de Macron, c'est que ça peut aboutir à ça. Et on sera tous dans cette réalité-là pendant au moins 12 mois.
Oui, parce que le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée dans un délai de 12 mois après la première dissolution.
Ouais, consécutif, ouais.
Oui, en fait. Soyons fous. Si on a une majorité relative de gauche,
oui.
Est-ce que le blocage institutionnel ne serait pas moindre parce que une majorité relative de gauche aurait plus de facilité à nouer des accords circonstanciels avec la gauche de la Macronie, on va appeler ça comme ça, que le RN qui en fait, surtout que le RN risque de même pas pouvoir s'appuyer sur un groupe LR qui sera soit encore moins important que maintenant, soit qui refusera de voter avec lui.
Dans l'absolu, j'aurais tendance à te dire que tu as raison, mais il y a un certain nombre d'alliances qui pourraient se nouer sans LFI. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à l'Assemblée, disent pourquoi pas travailler avec des socialistes, pourquoi pas travailler avec des communistes ou avec des écologistes. Mais avec LFI, non, c'est pas possible. Voilà. Donc cette question des alliances aujourd'hui, la diabolisation de LFI est à un tel niveau au point de vue institutionnel que, alors que paradoxalement sur un certain nombre de rapports, de travaux parlementaires, il y a un très bon échange, y compris avec des rapporteurs ou des présidents de commissions qui sont Renaissance et tout. Il y a un vrai travail législatif qui arrive à se faire. Mais pour ce qui est d'une alliance sur un projet de loi, ça deviendra très difficile parce que les électeurs ne comprendraient pas que on se fasse. Moi, je prends le bloc Renaissance, mais parce que de toute manière, il y aura un bloc Renaissance à l'issue des législatives. Les électeurs de Renaissance ne comprendraient pas que il puisse y avoir des alliances entre Renaissance et le Front Populaire dans lequel il y a LFI. Pour faire passer un certain nombre de projets de loi. Je pense que ce sera difficile. Voilà.
Serge, une question un petit peu de base et qui est importante, question de Dominique. Quelle est la différence entre une majorité relative et majorité absolue ?
Mais la majorité absolue, c'est que la majorité relative, c'est celui qui a le plus gros groupe. Hein, on va simplifier. C'est celui qui fait le plus beau score. Mais la majorité absolue, c'est au-dessus de la moitié des 577 députés que compte l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, si vous êtes à la tête d'un groupe qui a à lui tout seul la moitié des députés, plus un, ce groupe fait tout passer. Voilà. Il fait ce qu'il veut.
Parce que tous les votes sont la majorité absolue.
Excusez-nous, mais nous, on est 577 par 2. Tu vas me rappeler immédiatement combien ça fait.
Je crois que c'est 289, mais j'ai encore un doute.
289, la majorité absolue.
On est d'accord.
Hein. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, la majorité absolue, tu fais exactement ce que tu veux. Tu as le Premier ministre qui dit projet de loi, très bien. Transmis à l'Assemblée nationale. Et boum, le groupe dit, on l'a voté, terminé, ça passe. Voilà. Donc, le vrai danger, hein, on va pas se raconter des histoires, le vrai danger, c'est que s'il y a cette configuration, le Rassemblement national peut appliquer son programme sans aucun problème. Sans aucun problème. S'ils ont la majorité absolue. Voilà. Et donc, l'enjeu pour eux, c'est de gagner. Ils sont à 88 députés. Donc, il faut qu'ils gagnent 201 députés supplémentaires. Quand on regarde bien la carte électorale, on se dit que c'est pas impossible.
Oui, oui,
c'est
oui.
pas gagné, hein. Je dis pas, attendez, mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement ce soir qu'ils auront la majorité absolue. Je dis que c'est à portée de main. C'est à portée de main. Voilà. Après, la campagne, ça peut changer les choses.
Pour continuer sur le RN, Serge, une question de Amine. Comment analyses-tu le refus du Rassemblement National de s'allier avec Reconquête? Parce qu'on a eu les infos, Marion Maréchal a dit cet après-midi que le Rassemblement National aurait retourné sa veste et refuserait toute alliance avec Éric Zemmour, personnellement Éric Zemmour. Donc a priori c'est parti, ils seront divisés. Est-ce que c'est un simple jeu de pouvoir ou est-ce que tu penses que c'est pour 2027 et la présidentielle?
Bah écoute, comme tout le monde, moi j'étais très surpris quand j'ai découvert ça, parce que enfin je suis encore plus surpris, parce qu'on avait tous bien compris que d'abord entre Zemmour et Marion Maréchal, ils ne partiront pas en vacances ensemble, et puis je pense qu'ils se parlent plus. Ils se parlent plus, ils ne sont plus sur la même ligne politique. Éric Zemmour ne supporte plus Marion Maréchal.
La campagne de Reconquête a été exécrable. Pendant les européennes, il paraît que la campagne était exécrable.
Ben, c'est pas la campagne qui était exécrable, c'était l'ambiance au sommet où Éric Zemmour souffrait de la notoriété médiatique de Marion Maréchal. Ça, c'est clair. Il y avait un fond de jalousie. Il y avait aussi une divergence politique. Marion Maréchal a toujours dit qu'il fallait l'union avec le Rassemblement National, que c'était folie de vouloir à tout prix se singulariser et faire cavalier seul. Et il y a un moment où cette ligne, elle pose problème. Et entre les deux dirigeants, ça pose un problème. Zemmour n'est absolument pas pour faire une quelconque alliance avec le Rassemblement National. Donc, il a fait un communiqué hier en disant, j'ai demandé à Marion Maréchal de venir m'expliquer ce qu'elle attendait des rencontres qu'elle a eues avec le Rassemblement National. Et visiblement, il y a eu une décision de dire, non, Zemmour, non, c'est pas possible. Je crois aussi qu'il y a dans la réflexion de Marine Le Pen, parce que c'est Marine Le Pen qui a pris cette décision vraiment.
Ah bon?
Oui, apparemment, oui. D'après ce que j'ai réussi à reconstituer, hein,
c'est une info, ça.
Bon, enfin, c'est une info qui demande à être vérifiée. Mais voilà. pourquoi? Parce que Marine Le Pen aime beaucoup sa nièce. Marion, elle serait enchantée que Marion revienne au bercail. Mais elle trouve que Zemmour est en ce moment un boulet. C'est-à-dire que pour un parti qui cherche à se banaliser, Zemmour est trop voyant. C'est très simple. Les envolées de Zemmour sont ingérables. Voilà. Ça passe pas dans un débat. C'est un garçon qui est effectivement un discours très marqué. Plutôt intelligent et il maîtrise bien les médias puisque c'est un ancien journaliste. Mais c'est un discours tellement marqué que ça risque. La crainte, c'est que Zemmour, par cette alliance, rediabolise le Rassemblement National. Ce qu'ils veulent absolument éviter dans les circonstances présentes.
Ok. Question de Olive. Est-ce que Macron et sa clique vont-ils faire passer la réforme de l'assurance chômage par décret en l'entre-deux-tours?
Oui, c'est le truc de dingue. Écoutez, quand même, on est dans un pays où il n'y en a plus d'Assemblée nationale.
Et boum, quoi.
On a un gouvernement qui fait ses valises. Enfin, je veux dire, Gabriel Attal, le pauvre garçon, il a découvert que dans 3 semaines, il n'y avait plus de boulot. Mais ça fait rien. On continue. Le Titanic continue à balancer des décrets. Et donc, il y a les décrets de l'assurance chômage qui vont être pris et qui vont réformer l'assurance chômage. Ce qui est un truc. Mais antidémocratique à ce point, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un pouvoir finissant, agonisant, qui décide quand même que, paf, jusqu'au bout. On y va.
Pioche, quoi. Mais c'est incroyable.
Et c'est une combination inconnue.
Je serais Gabriel Attal, sachant que je vais être au chômage dans quelques semaines, je pourrais pas passer à durcir les conditions d'indemnisation.
Bon, il a six mois pendant lesquels son traitement est maintenu, et après, il n'a plus rien. Voilà.
Là, c'est 6 mois.
Ouais, c'est 6 mois.
Question de Slashy, mais du coup on a un peu traité. Si le RN gagne une majorité relative, arriveront-ils à passer des lois 149-3? Donc dans l'absolu, pas trop, quoi.
Ben non, ils n'y arriveront pas.
Parce que la majorité
absolue. Je rappelle quand même que c'est une fois par session. Le 49-3. Le 49-3 en matière budgétaire, c'est open bar.
Oui, c'est ça.
Mais pour le reste, c'est une fois par session. Donc une fois que tu as boulé ton joker.
Sur l'immigration, sur ce qu'ils veulent, ce comme ça, ça ne va pas être open bar. Hein.
Voilà.
On est plus de 2500 en direct. Donc merci à tous. Moi, je rappelle le concept. On est en direct encore une bonne demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Et si vous n'êtes pas abonné, il faut s'abonner pour poser des questions. Et merci à vous.
Des trucs.
Qu'est-ce que pourrait faire, une question de Bardibule, qu'est-ce que pourrait faire Emmanuel Macron pour entraver Jordan Bardella si celui-ci est élu Premier ministre?
Eh bien, chers amis, la réponse, elle vous sera donnée très bientôt dans un tour de la question.
Voilà, les transitions.
Ernesto est en train de le préparer puisque l'idée c'est de vous faire une émission, une excellente émission où on essaye d'explorer les limites d'une cohabitation qui verrait Emmanuel Macron donc être à l'Élysée bien sûr et Jordan Bardella être Premier ministre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire et qu'est-ce que pourrait faire le président pour bloquer ces initiatives? Et là-dessus, on prendra les 3 cohabitations que la France a connues, la plus instructive étant, à mon avis, celle qui s'est déroulée de 86 à 88, où François Mitterrand avait déployé des trésors d'imagination pour essayer de bloquer la droite. Voilà. Mais dans les faits, le président se retrouve quand même singulièrement démuni, sauf à déclencher une guerre. Voilà.
C'est ça qu'il faut expliquer, c'est que quand le Premier ministre est du même bord politique que le président, c'est un collaborateur.
Voilà.
Quand c'est pas le même bord, c'est plus du tout la même histoire. Donc ne serait-ce qu'il peut pas demander une démission, par exemple.
Voilà. Donc on en est là, mais Antoine vous expliquera tout ça.
Donc Serge, on vient d'annoncer un tour de la question pour la fin du mois. Hein.
Voilà, alors on va essayer, hein, parce que y a pas mal de boulot.
C'est court.
Voilà, mais si Antoine y arrive, ce serait bien.
Oui, on va travailler efficace. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est de, comme chaque fois, si on prend une question, donc en fait, on va répondre à une partie des questions que vous avez posées ce soir, en faisant toujours un peu de la prospective. Donc, selon les différents cas de figure qui aboutissent à une cohabitation après la législative. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment ça fonctionne une cohabitation? Quels sont les pouvoirs du président? Quels sont les pouvoirs du Premier ministre? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc ça, on va essayer d'aller discuter avec des juristes, du constitutionnaliste, qui va nous expliquer comment marche la cinquième. Dans ce cadre-là, et on va aller voir notamment peut-être un ou une historien pour parler de qu'est-ce que nous apprend l'histoire de la cinquième pour essayer d'imaginer vers quoi on va dans le cadre donc d'une cohabitation mais bon qui s'annonce si ce n'est probable en tout cas c'est un des scénarios possibles parce que en gros tout autre il faudrait que pour qu'on n'ait pas de cohabitation il faudrait que le bloc présidentiel sortent au moins, soit renforcés, soit se maintiennent à la position où il est avec une majorité relative aujourd'hui. Bon, on va voir, on n'est pas devin, mais ce n'est pas non plus le scénario le plus probable.
En parlant du tour de la question, ton premier sujet donc diffusé sur la France peut-elle gagner une guerre contre les Russes, on a dépassé les 400 000 vues là en début de semaine. Donc super. Cool. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires parce que ça nous a beaucoup servi et on va essayer d'améliorer le format. Est-ce que tu as vu une question, Serge?
Oui, il y a quelqu'un qui dit mais quand même si Macron prenait de nommer un ministre du Front Populaire, un Premier ministre du Front Populaire. Je rappelle qu'il se produirait la chose suivante, c'est que le Premier ministre serait nommé, pourquoi pas. mettons, je sais pas, il prend François Ruffin.
Au hasard.
Au hasard. Et mettons que ce soit le Front Populaire, enfin, ce soit la deuxième force politique de l'Assemblée nationale, derrière le Rassemblement national. Très bien, François Ruffin prend ses fonctions à Matignon, et puis une motion de censure est déposée par le Rassemblement national, on vote, et cette motion de censure aboutit au fait que le gouvernement est renversé. Voilà. Et c'est très simple. Les institutions font que, voilà pourquoi on prend en général un premier ministre qui est issu des rangs du groupe majoritaire, parce que sinon on s'expose à ce que les autres groupes se liguent pour voter la motion de censure qui obligera le gouvernement à démissionner. Alors c'est vrai que le président peut confirmer dans ses fonctions le premier ministre en question, mais tout le monde a bien conscience qu'à ce moment-là s'ouvre une crise politique énorme et ça devient ingérable. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà.
Question de Alexandre, question très importante. Peut-on encore avoir espoir quand on vote à gauche?
Bon, ça, de toute manière, moi je pense qu'il faut toujours espérer. À partir du moment où on a des engagements, ça ne dépend pas du vent. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Hein. Des fois, les vents sont contraires. Des fois, on se dit que... après tout, celui qui vous parle, la dernière victoire de la gauche, celle qui a, où il y a eu un voilà. Non, quand même pas. Bon, j'ai eu la chance de voir un président porté par une gauche qui s'est réunie. Il faut rappeler aussi que la désunion de la gauche était la guerre. Pourtant, François Mitterrand en 81 a réussi à être élu. Bon, et dès 1983, on a commencé un petit peu à déchanter, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc l'engagement, les valeurs qui conduisent les uns et les autres à choisir un candidat dans l'arc républicain ou une famille politique dans l'arc républicain ne doivent pas dépendre des circonstances. Après, des fois, c'est un peu plus long que ce qu'on pensait. Ça, c'est la vie. Il faut convaincre. Convaincre les gens. Moi, j'ai énormément de respect pour les militants, ces gens qui prennent sur tous les militants, j'entends, tous les militants, hein, quelle que soit la formation politique, qui prennent sur leur temps de travail, sur leur temps de repos, leurs loisirs, leurs vacances, tout, pour aller convaincre les autres, s'investir dans la vie politique. Je trouve que c'est une garantie que, oui, de la vie démocratique du pays.
Une question de Dominique. Par contre, j'ai un petit écho peut-être chez toi, Serge, sur le son. Mais ça va, on s'entend un petit peu, mais ça va. Question de Dominique. Pensez-vous qu'une partie de la bourgeoisie et des médias est prête et encourage l'arrivée du RN au pouvoir? Est-ce que tu penses qu'il y a une bascule culturelle, en fait, au profit du RN?
Alors moi, je réfléchis autrement. Je suis très fidèle à Gramsci. Je crois que c'est le gros apport du philosophe Gramsci, militant communiste emprisonné. Et donc, ceux qui ont le temps, je vous conseille de lire ses cahiers de prison. Mais Gramsci, ce qu'il avait bien compris, c'est que la bataille idéologique, la bataille culturelle précède la victoire politique. C'est-à-dire que on arrive à faire triompher des concepts et des idées lorsqu'on a réussi à les installer dans l'opinion publique. Et cette bataille-là, ça fait des années que le Rassemblement national et l'extrême droite la mènent. Donc, aujourd'hui, ils touchent finalement les dividendes de cette bataille. Mais le fait qu'ils soient aujourd'hui en situation de prendre le pouvoir, c'est bien de cela dont on parle, c'est l'aboutissement d'un travail d'années et d'années, si on y réfléchit bien. Depuis 1983, parce que je pense qu'il faut dater l'ascension du Front National depuis l'élection municipale de Dreux en 1983, où c'est le point de départ d'une conquête politique qui nous conduit à aujourd'hui, il y a tout un travail pour remettre dans le débat public un certain nombre de concepts, d'opinions, de propositions politiques. Voilà. Alors, c'est pas les médias, ils sont aussi perméables à l'ère du temps. C'est pas les médias. Moi, je connais cette histoire où on me dit en permanence, hein, les médias, vous faites opinion, c'est les médias qui font l'opinion. Non, l'opinion, elle est ce qu'elle est. Les médias sont plutôt une caisse de résonance. Ils fabriquent pas l'opinion. Ça, c'est une vision mécaniste de la chose.
Depuis dimanche, quand même, sur beaucoup de médias et surtout CNews, le Rassemblement National est un parti de droite.
CNews, pardon, enfin CNews, on sait ce que
c'est. Oui, mais attends, c'est la première chaîne d'info aujourd'hui en France.
Bah, c'est la première chaîne d'info.
Mais c'est terrible. Mais parce c'est que le Rassemblement National est un parti de droite pour les gens qui regardent.
Enfin, moi, je vois pas. Pardon, hein, je vais choquer beaucoup de gens ici ce soir. Moi, ce qui me choque dans CNews, c'est pas qu'elle soit de droite, c'est que ce soit un milliardaire qui la finance. Oui. Moi, je suis en matière de presse, je suis pour qu'il y ait toutes les sensibilités politiques qui puissent s'exprimer. Antoine, moi-même, toi, nous sommes passés par des médias qui quelque part fonctionnent un peu comme C8 avec une autre coloration politique. Mais qui font essentiellement des débats en plateau, de longs débats, peu de reportages, peu d'enquêtes, peu d'investigations et beaucoup de débats idéologiques. Bon, alors c'est bien sûr, ils n'ont pas les mêmes moyens que Bolloré, et donc ils n'ont pas les mêmes moyens que CNews. Mais moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. L'existence de CNews ne me choque pas en tant que journaliste. Ce qui me choque, c'est qu'un milliardaire mette sa puissance financière au service d'un média. Ça, oui, ça me choque.
C'est la concentration des médias, le vrai problème. C'est que des gens comme Bolloré puissent acheter un grand nombre de médias et les mettre et définir leur éditorial selon leur agenda politique à eux.
Oui, c'est pour ça que moi j'ai toujours pensé, et la gauche s'honorerait, ceux qui suivent les FAQ régulièrement vont dire que je radote, mais tant pis, je milite activement pour que ne puissent être détenteurs de médias que des groupes industriels dont l'activité principale, essentielle, c'est les médias. C'est-à-dire, je suis pour que les médias soient possédés par des gens dont l'activité industrielle, c'est justement de faire des médias. Et pas de faire des ports, de l'import-export ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que c'est une bataille essentielle que la gauche devrait mener plutôt que de faire des commissions. C'est très sympa de faire des commissions d'enquête sur CNews, etc. et tout, mais je suis pas persuadé que le résultat soit à la hauteur des attentes. Ça avait été une des grandes questions de la gauche en 1984 avec les lois contre la concentration par un papivore, à l'époque on appelait ça comme ça, Robert Hersant, qui rachetait tous les journaux et qui avait constitué un empire de presse. C'était l'époque où les journaux étaient en papier et le poids des télés n'était pas celui qu'on connaît, parce que c'était l'époque encore de l'ORTF. Mais cette concentration de papier avait été stoppée grâce à des lois ad hoc qui empêchaient justement et qui avaient permis de démanteler l'empire Hersant. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut démanteler capitalistiquement ces empires médiatiques qui ne s'appuient pas sur l'audience des médias. C'est pas les résultats de CNews qui permettent à CNews de se financer. C'est l'argent de Bolloré qui permet d'alimenter une danseuse qui s'appelle CNews. Et là, je dis, c'est profondément injuste et antidémocratique. Je veux dire, CNews vivrait uniquement des ressources de son audience. Je dirais, ben, très bien, voilà, il n'y a absolument aucun problème.
D'accord. Question de J.S. Guiraud sur le chat. Ne pensez-vous pas que le Front populaire doit donner des mesures de gauche sur les questions d'immigration et de sécurité, comme la police de proximité, pour convaincre les électeurs déçus?
T'en penses quoi, toi, Antoine?
C'est sûr que ce soit à moi de définir
quel est-ce doit que être, le Front populaire doit aborder très rapidement des questions d'immigration et de sécurité, par exemple.
Je sais pas. La question, c'est que actuellement, l'étiage de la gauche, et ça se, quand on additionne tout ce qu'ils ont fait aux européennes, et ça se confirme dans les premières projections qu'on a pour la législative, c'est entre 25 et 30% de l'électorat. Donc, il va y avoir une question à se poser à un moment sur comment on arrive à reparler aux différentes tendances des ouvriers, des employés, des milieux populaires, des milieux ruraux. Bon, Après, est-ce que ce que ces gens-là veulent en priorité, c'est qu'on parle d'immigration ? Ça, je suis pas persuadé. Mais voilà, peut-être qu'il va falloir qu'effectivement la gauche fasse un peu l'inventaire de comment elle parle à la population en général. Ça peut être, oui.
Il y a... Alors ça, c'est une victoire. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la bataille culturelle. L'extrême droite a réussi, sur des dizaines d'années, à poser le signe égal entre sécurité et immigration. Et ça, c'est là-dessus que la bataille... Ce que réclament majoritairement nos concitoyens, lorsqu'on regarde toutes les enquêtes d'opinion, on a dans l'ordre aussi le pouvoir d'achat,
oui,
c'est la protection sociale, et c'est la sécurité, c'est-à-dire le fait de pouvoir circuler dans les rues des villes, des agglomérations, sans se faire agresser, sans incivilité, sans crainte pour son bien. Et c'est une revendication tout à fait légitime, il faut le dire. Je trouve que la gauche a toujours eu un petit problème avec les questions de sécurité, n'assume pas le fait de dire que les gens ont droit de circuler en sécurité, et ça vaut pour tout le monde. Je veux dire, les femmes doivent pouvoir circuler dans la rue sans se faire harceler, agresser, mais les gens qui vont chercher leur baguette de pain aussi, quoi. Il faut être cohérent là-dessus. Simplement, là où ça devient délicat, c'est que cette équation entre insécurité égale immigration a été installée par l'extrême droite et mise en avant systématiquement. Maintenant, c'est devenu pour les gens une vérité. Il faut d'abord remettre les choses dans l'ordre, puis deuxièmement, entamer la bataille sur l'insécurité. C'est pas la question de l'immigration, c'est la question de l'insécurité. Oui, il y a un problème d'insécurité, c'est réel, les gens le ressentent comme ça, et il faut le régler. Et si la gauche a su le faire, hein, par le passé, il y a eu deux grands ministres de l'Intérieur, ils étaient de gauche, hein, c'est Jean-Pierre Chevènement et Pierre Joxe.
Bon, Jean-Pierre Chevènement qui a rejoint le Front Populaire cet après-midi.
Ah bah tu vois.
Et toujours vivant.
Pardon ?
Et toujours vivant ?
N'insultez pas le tché.
Et Lionel Jospin est toujours vivant aussi. On attend de ses nouvelles, ça devrait pas tarder. Serge-Antoine, on a beaucoup de questions sur les motions de censure. Si par exemple Jordan Bardella est Premier ministre avec un gouvernement et à l'Assemblée... ils ont une majorité, est-ce qu'ils pourraient se manger des motions de censure et qu'est-ce que ça ferait ?
Ben oui, mais il faut que en face, on arrive à avoir une majorité sur la motion de censure.
Parce que là, c'est la majorité uniquement absolue.
Et oui, je rappelle que la motion de censure, c'est pas qui est pour, qui est contre, c'est uniquement les voix pour qui sont prises en compte. Et il faut que ce soit la moitié de l'Assemblée plus une voix, donc 289 voix, donc pour que la motion de censure soit adoptée. Donc ça supposerait, et c'est ça le système, c'est là où il est pervers, c'est que si un groupe a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il est à l'abri des motions de censure. S'il a une majorité relative, il est exposé à une motion de censure dans la mesure où les différentes oppositions sont d'accord pour voter un même texte de motion de censure. Ce qui a souvent été prêt de se réaliser pendant ces deux ans, mais on n'y est pas arrivé. La seule fois où ça a failli se faire, c'était donc au moment des retraites, et il s'en est fallu de 9 voix sur la motion de censure. Tout dépendait du rôle des Républicains. Voilà. Donc demain, si le RN a la majorité absolue, ben la motion de censure, faut oublier. S'il a une majorité relative, là, tous les espoirs, le cas échéant, sont permis. Mais je rappelle que le président peut très bien dire, très bien, le gouvernement est renversé, mais je confirme le Premier ministre à son poste et je le charge de constituer un nouveau gouvernement.
On continue les questions, n'hésitez pas, on est encore avec vous une dizaine de minutes sur le chat, on est en direct. Question de Mangeclou, alors c'est évite de manger des clous quand même. Hein. Jean-Luc Mélenchon doit-il se mettre en retrait pour permettre une éventuelle large alliance de gauche ?
C'est un roman d'Albert Cohen, hein, Mangeclou.
Ben, écoute, moi j'ai envie de dire que la réponse est dans la question. Et je pense que c'est l'éléphant qui est dans la pièce des réunions de négociation sur le Front Populaire. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de gens, comprenez bien la situation, il y a un tel contention, un tel passif interpersonnel que pour que cet accord électoral vive de sa belle vie sans anicroche, il est peut-être souhaitable d'éviter que les personnages qui crispent une partie des composantes, à tort ou à raison, la question c'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon a raison et puis Olivier Faure c'est un méchant ou Fabien Roussel il est pas, on s'en fout. La question c'est que s'il y en a un qui à un moment donné tire un peu trop la couverture à lui ou se met en avant ou commence à essayer d'avoir l'hégémonie sur le Front populaire, il se produira la même chose qu'avec la NUPES, mais cette fois-ci à 10 fois plus rapidement. Donc, je pense que chacun a appris les erreurs du passé et comprend que cet accord, il faut le protéger au maximum de toute tentation hégémonique. Et je pense que dans ce cadre-là, Jean-Luc Mélenchon est un habile tacticien qui aura peut-être compris que il faut qu'il accepte l'espace de quelques semaines d'être un petit peu en retrait. Voilà.
Question
de... Là, c'est mon sentiment et peut-être que plein de gens parmi ceux qui m'écoutent diront « mais non, t'es fou, au contraire, c'est la personne qui… » etc. Chacun son point de vue. Moi, ce que je sais, c'est que bon, je suis pas certain que si on met Mélenchon face à Olivier Faure dans la même salle, bon, ça va pas se passer formidablement bien en ce moment. Voilà, il y a aussi une question humaine. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup aimés, puis à un moment donné, ils peuvent plus se blairer et c'est tout.
Question de Romain. Édouard Philippe tend la main au LR modéré ce soir. Modéré entre guillemets, donc ceux qui ne passent pas avec le RN. Les socialistes libéraux anti-LFI pourraient-ils aussi s'unir derrière lui?
Alors,
parce qu'Édouard Philippe a fait un appel au LR et aussi au PS, mais avec Carole Delga qui rejoint le Front populaire, ah, ça me semble chaud quand même.
Il n'aura échappé à personne qu'Édouard Philippe est candidat en 2027. Il n'aura échappé à personne que Édouard Philippe incarne une tradition de la droite qui est assez appréciée en France, qui est la nostalgie d'Alain Juppé. C'est la continuation de la droite juppéiste. Bon. D'ailleurs, une espèce de droite chiracienne, voilà. On n'est pas dans l'outrance. En même temps, on est vraiment très de droite, hein, quand même. Je n'oublie pas la réforme de la retraite. Les réformes de la retraite de Juppé, mais c'est pas la droite Ciotti, voilà, c'est pas une droite obnubilée par l'immigration, etc. C'est plutôt une droite obnubilée par les questions traditionnelles de la droite, c'est-à-dire question de liberté économique, vie des entreprises, etc. Bon. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens, moi ça m'a toujours, enfin j'ai toujours pas compris pourquoi des gens comme Olivier Marleix, par exemple, n'étaient pas à Horizon. Et il y en a plein. Philippe Gosselin, député de la Manche, je me suis toujours dit pourquoi il n'est-il pas à Horizon. Il y en a plein. Quand on regarde, on fait le décompte, on se dit il y a la moitié du groupe qui pourrait être à Horizon. Voilà. Jusqu'à présent, Horizon, c'était tranquille parce qu'il y avait l'échéance européenne. Il était bien entendu avec Emmanuel Macron qu'après l'échéance européenne, Édouard Philippe reprenait sa liberté et il se positionnait pour 2027. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement des transferts. Voilà. Alors, pour ce qui est d'attirer des socialistes à Horizon, j'y crois pas une seconde. Voilà. Une seconde, pourquoi ? Parce que d'abord les socialistes qui seraient tentés par une démarche anti-NUPES, ils ont déjà un lieu d'atterrissage qui est fantastique, ils font du bon travail d'ailleurs, c'est le groupe Lyotte. Les deux députés de l'Ariège, les deux députés socialistes de l'Ariège sont à Lyotte, par exemple. Benjamin Saint-Huil, le porte-parole du groupe que vous voyez souvent dans les sujets de pure politique, est un socialiste du Nord, opposé à la NUPES, opposé à LFI, mais la fibre, sociale qui l'a conduite au Parti Socialiste demeure. Voilà. Donc ces gens-là ont déjà une piste d'atterrissage. Je signale au passage qu'aujourd'hui, on s'est entretenu avec Bertrand Pancher, donc le président du groupe Lyot, et que Lyot va faire un truc assez nouveau. Ils vont présenter des candidatures Lyot. C'est-à-dire que la vingtaine, 20, ils sont 22, 23, je ne sais plus, députés Lyot vont se présenter sous l'étiquette Lyot dans leur circonscription et peut-être ailleurs. Voilà, donc Lyot, le groupe parlementaire, devient un petit parti politique.
Et tu ne penses pas qu'il pourrait rejoindre le Front Populaire chez Lyot?
Non.
Il ne faut pas pousser quand même. Charles de Courson, c'est l'homme de droite préféré de la gauche, mais ça reste un homme de droite. Hein.
Ah, je pose des questions.
Non, oui, je veux dire, il y a l'obstacle Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est il y a l'obstacle Jean-Luc Mélenchon, il y a l'hostilité vis-à-vis de la NUPES. Voilà, il y a un contentieux. Et je fais observer en même temps que ce sont eux qui jouent un rôle central dans les grandes batailles qui peuvent fédérer l'ensemble des oppositions. Au moment de la réforme des retraites, c'est quand même la motion de censure portée par Lyot qui a fait avancer les choses.
Est-ce qu'on parle un peu de pure politique, Serge et Antoine? Donc le tour de la question, Antoine, tu nous présentes un petit peu ce que tu vois pour l'avenir sur le dernier, notamment.
Non, mais déjà, on était très content que le pilote ait plu aux gens, que ce soit en termes de vues ou même de commentaires. Bon, il y a eu quelques attaques de bots russes, mais c'est pas grave, on s'y attendait. Mais en tout cas, voilà, l'ambition du format, c'est de répondre aux questions que le public peut se poser, en essayant d'y répondre à la fois précisément et simplement. Et donc, ces questions... elles seront liées à l'actualité. Donc là, forcément, celui qu'on va essayer de faire ce mois-ci, il va être lié aux législatives et à la cohabitation. Mais si on avait été en rythme de croisière, j'en aurais fait un sans doute sur la Nouvelle-Calédonie, j'en aurais fait un sur la Cour pénale internationale vis-à-vis de leur position face à Netanyahou. Voilà. Ça sera toujours assez lié à l'actu. Donc là, c'est le début. On va essayer d'être pleinement opérationnel en septembre.
Mais du coup, qu'est-ce qui nous limite actuellement, Serge et Antoine?
Les bouzouf.
La moula.
Non. Bon, ce qui est clair, c'est que pour enregistrer une émission comme le Tour de la Question, mais y compris le Bourbon ou pour l'Express, bon, moi j'enregistre ça, c'est à moitié un garage, à moitié un truc. Enfin bon, vous voyez le bordel qu'il y a. Et encore, j'ai rangé un peu avant l'émission, mais c'est un vrai chantier, quoi. J'ai annexé la moitié de mon habitation pour. Arrivé à tourner, on pousse les murs et tout. Ma famille est soumise à des cures de silence régulières quand j'enregistre. Voilà, donc c'est un vrai cauchemar. Donc, on a absolument besoin d'un local. Le résultat de mes prospections fait que nous entreapercevons une possibilité d'un local qui répond à la fois à nos contraintes techniques, c'est-à-dire un open space où on puisse positionner des caméras de différentes manières et tout, on a besoin de beaucoup de recul, bon, tout ça, et qui soit en même temps abordable. Voilà, donc ça, on vous en reparlera un petit peu plus tard, dès qu'on aura avancé là-dessus, ça nous permettra on aura besoin de votre aide financière, on va être très franc, hein, si on s'engage dans un local dont on paye le loyer, eh bien, mes chers petits amis, vous savez que le loyer à Paris, c'est cher, c'est très cher.
Il n'y a rien que là, même pour la campagne législative. Hein.
Alors, pour la campagne législative, là, nous, on va essayer quand même de bouger pas mal, de suivre un certain nombre de circonscriptions tests. On va voir ce qu'on peut faire avec nos petits moyens, quand même. Hein. Mais bon, on va essayer de mettre en face les ressources nécessaires. Et puis, le tour de la question. Donc, pour en revenir au tour de la question, il faut donc un local où on puisse enregistrer, faire venir des invités. C'est important. Faire venir des invités, faire de beaux sonores dans de bonnes conditions d'éclairage, conditions de son. Parce que la qualité d'une émission, c'est aussi la réalisation technique. On peut dire des choses très intéressantes, mais si on est obligé de tendre l'oreille pour entendre ce que dit la personne invitée, ou si elle est mal éclairée, ou si c'est vraiment moche et l'image est un défi à l'esthétique, voilà, ça fonctionne pas. Donc on a un certain nombre de contraintes techniques pour que cette émission soit de qualité. Et puis, il y a surtout d'abord les ressources humaines. Donc il y a Antoine. Et il y a une jeune consoeur qui va rejoindre l'équipe très bientôt, puisqu'elle rentre, voilà. Elle rentre au mois de juillet.
Parce que j'ai vu qu'à raison, on soulignait qu'il n'y avait que des hommes dans cette histoire, on en est bien conscient. Et donc,
voilà, en plus, il y a deux barbus là.
Tu seras barbu peut-être un jour, Serge.
Non, tu connais les barbus, un barbu, deux barbus, trois barbouses. Hein.
Donc, la forme finale du tour de la question, c'est une émission présentée en duo avec une consoeur. Voilà, donc on a rencontré des gens, on va faire des tests, et effectivement, parce que... la parité, on en a conscience et ce sera de toute façon plus intéressant à le faire à deux voix que tout seul. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est dans les cartons. Si on a des moyens, si vous nous soutenez financièrement, on va l'équipe s'agrandit.
Et puis on a envie que cette chaîne ressemble un peu. Certains doivent connaître la formule du général de Gaulle à propos du RPF, son parti, il disait un bon parti politique, c'est le métro à 6h du soir. Voilà. Et je pense qu'un bon média, c'est un média dont la rédaction ressemble au métro à 6h du soir. Il y a de tous les âges, de toutes les origines, de tous les... voilà. Je suis assez attaché à ça. C'est-à-dire une équipe de professionnels qui font du journalisme, mais qui en même temps reflète un peu tous les secteurs de la société, voilà. Et j'ai envie que Pure Politique, ça va prendre du temps de toute manière. On est une toute petite équipe aujourd'hui, hein. Mais l'idée, c'est qu'il y aura un effet d'entraînement en vous proposant davantage de programmes. J'espère qu'il y aura en face des recettes qui iront crescendo, et ces recettes permettront de faire apparaître de nouveaux visages, de nouveaux profils, de nouveaux formats, de nouvelles incarnations. Et faire que ce média se développe en évitant cet écueil qui est que beaucoup de médias au bout d'un moment ont tendance à reproduire éternellement ce qu'ils font et finissent par tourner un peu en rond. L'idée, c'est que il y a une variété de formats qui font que les uns et les autres trouvent leur bonheur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, historiquement, je viens de la presse écrite, et dans un journal, quand on achète un journal, il y a plusieurs signatures et il y a des articles différents, et on lit pas tout dans un journal. Si vous prenez le Monde, Libération, le matin, il y a des articles qui vous intéressent, et dans les autres, vous n'avez strictement rien à faire. Bon, mais ça va intéresser le voisin, ou ça va intéresser la concierge, ou votre copain au boulot, etc. Voilà. Et je pense que l'offre éditoriale d'un média, ça doit être un peu ça, avec une unité de ton. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on conserve un côté un peu caustique et irrévérencieux de Pure Politique, et qui fait partie de son ADN, et en même temps qu'on arrive à voir et donc des nouvelles recrues qui viennent avec leur savoir-faire, leur expérience, leur vécu, leur ressenti, leur langage. Et voilà, moi je suis très content qu'Antoine vienne. Entre nous, il y a une différence de génération qui ne nous aura pas échappé. Je suis beaucoup plus jeune, mais je suis très content. Voilà, et maintenant, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des gens qui viennent de province aussi. Enfin voilà, qu'on puisse un peu être à l'image du pays. Voilà, surtout dans une chaîne qui parle politique. Si on parle politique, je pense qu'il faut quand même que la chaîne elle incarne aussi un peu ceux qui consomment de la politique, c'est-à-dire les citoyens.
Tu parlais de la chaîne, on a dépassé les 210 000 abonnés. C'est vrai qu'on n'a pas fait de FAQ pour les 200 000. Dernièrement, on a eu franchement une très belle progression. Hein. Depuis le tour de la question, on a vraiment envie de réitérer ça régulièrement, parce que ça envoie une belle croissance pour nous. Et c'est vrai que je pense qu'on va y arriver comme ça. Et il y avait une question de Bardibule. Est-ce qu'on pense maintenir la gratuité de la chaîne à terme? pour le moment, oui, parce que de toute façon, on monétise. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous, parce que financièrement, c'est quand même pas négligeable. Et c'est prévu, effectivement, de faire la gratuité. Après, si jamais on a un site et tout.
Un mot là-dessus, parce que c'est une question, moi, qui à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce que ce modèle économique est viable et jusqu'où? Bon. Je pense qu'il est viable. Pourquoi? Parce que finalement, quand on dit aux gens, il y a des contributions qui sont parfois minimes, et puis il y a des gens qui donnent beaucoup. Et l'un dans l'autre, je dirais que ça s'équilibre. Et si on demandait aux gens de dire, ben voilà, chaque mois, si vous voulez avoir accès à nos contenus, donnez 5 euros, et puis voilà, et sinon, vous voyez rien. Je pense que, d'une part, les gens pourraient pas découvrir ce qu'on fait. On a besoin qu'ils découvrent ce qu'on fait. Et deuxièmement, je pense que les gens qui nous regardent comprennent qu'à un moment donné, s'ils ont envie d'avoir d'autres programmes et s'ils ont envie que les programmes s'améliorent, il faut contribuer. Voilà, c'est pour ça qu'on vous répète ça systématiquement. C'est pour ça qu'on met de la pub aussi, parce que c'est une partie de nos ressources. C'est une partie faible, hein, quand même. Faut pas s'illusionner sur la pub sur YouTube. C'est pas quand même, y a pas de quoi se taper sur les cuisses tous les matins. Hein. Enfin bon, ça aide un peu. Ça fait les fins de mois, comme on dit. Voilà. Mais c'est vrai que on est très ric-rac pour le budget. Moi j'ai des beaux tableaux Excel, je suis devenu le roi des projections sur Excel, c'est passionnant. L'idée c'est que, comme tous les médias, on mise sur un effet d'échelle. D'ailleurs, une rédaction fabrique des contenus. Et à partir du moment où, c'est quoi le coût d'une rédaction? C'est surtout des salaires, hein. C'est-à-dire que les gens, ils puissent faire 3 repas chauds par jour, ça a l'air de rien, mais quand même, avoir un toit, et des choses indispensables. Et puis, c'est un peu de matériel et tout, voilà. Mais c'est ça, la matière première qui va permettre de créer des contenus. Et donc, l'idée, c'est qu'une rédaction, elle peut produire un certain nombre de contenus qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'investir dans nos nouveaux recrutements pour monter un petit peu en puissance. Voilà, cette parenthèse capitalistique, mais c'est important que vous la compreniez. C'est-à-dire qu'une petite équipe, à partir du moment où on sera 6, 7, 8, on pourra produire beaucoup plus, faire des sujets plus ambitieux, qui prennent plus de temps, tout en assurant un flux quasi quotidien. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien à terme, c'est qu'on ait 4-5 émissions par semaine et qu'on soit capable, par exemple, dans les grandes occasions, de faire des spéciales, des décrochages en live. Moi, le soir des européennes, je vous cache pas que j'aurais bien aimé avoir une équipe dans chaque QG. Voilà, parce que je pense, j'aime beaucoup mes confrères des chaînes info, chez qui en plus je vais parler de temps en temps, mais... c'est vrai que je pense que le traitement d'une soirée électorale, on la ferait différemment de ce qu'ils font. Ils le font très bien dans leur registre, mais le registre de pure politique, c'est pas le registre des chaînes d'info. C'est un autre registre, peut-être plus différent. J'aurais bien aimé que le soir des européennes, bon, on ait quelqu'un au quartier chez Bardella, quelqu'un chez Olivier Faure, Raphaël Buxman. Nous, on avait choisi LFI parce qu'on tablait sur quelques annonces qui ne sont pas venues de la part de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire d'être en mesure de vous proposer une information politique riche et de plus en plus en temps réel. Voilà. Des chroniques d'analyse qui resteront bon pour l'Express, mais il y a des fois, on a envie de faire des trucs là, de vous raconter des trucs qui viennent de se passer avec notre éclairage. Pas simplement de vous dire, regardez, il se passe ça, et puis, frisette, non. De vous dire, il se passe ça, et on vous explique à chaud pourquoi est-ce qu'il vient de se passer. Quand Michel Barnier sort sur le perron du siège de LR et il fait sa déclaration, j'aurais bien aimé vous raconter pourquoi, comment, et les dessous de l'histoire, voilà. Et quand Ciotti arrive, déboule, que Sandrine Rousseau vient l'accoster et lui dit machin, c'est pas glorieux ce que vous faites. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là, j'aimerais bien qu'à terme on soit capable de le faire et d'être aussi réactif que les confrères. Alors ça veut dire quoi concrètement? Il faut avoir un dispositif de transmission en temps réel qui s'appelle un Navy West, hein, ce nom barbare, c'est une espèce de machine dans laquelle on met 6 cartes SIM et qui transmet en temps réel. Et l'idée que ça arrive sur une machine de Maxime qui balance ça sur le flux en direct et ça permet de faire des plateaux, des explications et tout. Pour vivre une campagne électorale, c'est assez chouette. Voilà. Pas le faire tout le temps, non, parce qu'au bout d'un moment, ça devient du remplissage. Mais lorsqu'il se passe un événement politique fort qu'on peut anticiper, moi j'aimerais qu'on arrive à faire ça, voilà. Mais ça c'est de l'argent. Et c'est vous qui avez le choix. Hein. C'est soit vous nous aidez à évoluer vers ce modèle-là, soit vous dites non, c'est bien, on vous aime comme ça. Et bon, mais je sais que vous avez envie de plus et nous aussi, ça tombe bien.
On va conclure, Serge, du coup.
Ouais, alors juste un mot sur quand même une excellente émission d'Antoine. J'ai découvert grâce à cette émission qu'il y avait un truc qui s'appelait les trolls russes. Je dois vous dire que nous avons, moi personnellement, je ne sais pas combien t'en as évacué, Maxime. Moi, j'ai calculé que j'ai dû bannir de la chaîne environ 1300 personnes. Des commentaires qui étaient systématiquement, ça envoyait les éléments de langage qui ressortaient à chaque fois. C'est-à-dire, l'armée française en Afrique, vous avez rien fait, gna gna gna, vous êtes nuls, machin, préparez les cercueils. Et ça décliné par des gens qui visiblement savaient même pas ce qu'ils étaient en train d'écrire, qui avaient à peu près la même provenance. Voilà. Donc on a viré tout ça et dans le même temps le site internet de Pure Politique et le site vitrine a été victime d'attaques récurrentes et je constatais avec les différents logiciels par feu etc qui me signalent toutes les tentatives d'intrusion qu'il y en a beaucoup qui viennent de Saint-Pétersbourg, donc j'adresse un petit salut aux abrutis qui depuis Saint-Pétersbourg essayent de rentrer sur le site de Pure Politique pour le casser, hein. L'idée c'est dire, ils nous font chier avec leur histoire de tour de la question sur la guerre en Russie. Donc, nous, on va se venger.
S'ennuie quand même un peu, hein, pour que tu te dises qu'il y a un enjeu à s'aborder le site de Pure Politique.
C'est des tentatives d'ingérence,
ça. On est dans l'ingérence. Ben, c'est clair, imaginons qu'ils aient réussi. Ça nous aurait embarrassé, on aurait reconstruit le site, vous inquiétez pas, il est sur garde et tout, mais enfin, c'est une journée, deux journées de boulot, bon, c'est du temps perdu, voilà. Et l'idée, c'est de dissuader les gens de travailler sur ces questions, c'est tout, c'est une espèce d'intrusion, ça fait partie d'une espèce de guerre de basse intensité, voilà, mais c'est vrai que tous les commentaires à la con qu'on a pu virer en dessous de la vidéo d'Antoine, c'était effarant, quoi. C'était effarant, mais c'était les mêmes, hein. C'est pas non, c'est truc. Voilà, on voyait des éléments mal recopiés en plus, avec des mots qui manquaient, des trucs. Chaque fois, la référence à Napoléon, même Napoléon y est pas arrivé. Alors, hein, machin, c'est pas Macron qui va y arriver. Bon, voilà.
Au final, la vidéo fonctionne très bien, 400 000 vues, et elle va continuer à vivre, je pense, dans les prochaines semaines et peut-être les prochains mois. Hein. Voilà. Ça peut empêcher quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, on est armé contre ça, quoi. Bah merci Antoine, merci Serge, et puis bah merci à toutes et à tous parce qu'on était assez nombreux ce soir, même très nombreux. Jeudi, on se retrouve pour une vidéo.
Oui, jeudi, on se retrouve pour le bonbon de Serge, réalisé en plein air, si j'ose dire, puisque donc nous avons tout tourné place du Palais Bourbon. Alors c'était assez marrant comme expérience parce que d'habitude on est salle des quatre colonnes, on est dans notre petit enclos réservé de journalistes, hein, puis les députés viennent nous jeter des cacahuètes et répondent à nos questions. Et là on errait dans les rues et le premier député qu'on voyait, on lui bondissait dessus pour lui poser des questions, ce qui fait qu'au bout d'un moment les députés qui étaient par ailleurs en train de déménager pour certains leur carton, leur truc, parce qu'ils doivent nettoyer leur bureau. Quand bien même ils seraient réélus, ils doivent quand même, c'est ça que j'ai découvert aujourd'hui, ils doivent quand même faire le ménage dans leur bureau. Au cas où ils soient abattus, que la personne qui vient derrière, c'est plus votre bureau, voilà. Donc tout le monde était dans ses petites affaires, on s'est marré en filmant les camions de déménagement essayant de rentrer dans l'Assemblée nationale, parce que les camions sont de plus en plus gros. Et les Porsches n'ont pas changé depuis la construction du Palais Bourbon. Les carrosses pouvaient pénétrer dans le Palais Bourbon, mais les gros, les énormes poids lourds de déménagement pour rentrer, c'est une autre affaire. Voilà. Donc voilà, mais on s'est bien amusé et surtout on a rencontré des tas de gens qui nous ont parlé de manière, vous savez, ces ambiances entre deux de rendez-vous, y compris les députés de Renaissance qu'on a pu croiser, nous ont parlé de manière assez, comment dire, sans trop de langue de bois. Tout le monde était un peu dans un langage de vérité. C'est un moment rare dans la vie politique où, comme plus personne ne sait très bien à quelle sauce il va être mangé, est-ce qu'il va être battu, réélu, celui qui pourrait être ministre, ben machin. Certains ont découvert qu'il n'y avait plus de groupe parlementaire, d'autres que leur président est devenu fou. Enfin bon, voilà. Donc ça déstabilise beaucoup les élus qu'on a rencontrés et paradoxalement on a eu des voilà, ils nous ont parlé de un petit peu plus spontanément, je veux dire, que d'habitude. Donc on verra tout ça jeudi.
Rendez-vous jeudi. Bah, merci à vous, merci à toutes et à tous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.
Allez, salut.
Salut tout le monde.
Serge, salut Antoine.
Ciao.